La religion n'a joué aucun rôle dans les stratégies de résistance des Algériens. Elle a joué un rôle extrêmement important. C'est indéniable. La religion continue à jouer un rôle important dans les mouvements de jeunes qui sont dans un désarroi total, qui sont dans le chômage, qui n'ont aucun espoir, qui n'ont aucune alternative, qui savent très bien qu'aujourd'hui, ils sont éjectés du système et que demain, on leur propose une société qui les écrasera encore plus et qu'on a besoin de maintenir leur déqualification pour mieux les exploiter. Enfin, je veux dire par là que ces jeunes-là n'ont aucun espoir. Et ils se retrouvent dans les mouvements islamistes parce que il y a un discours radical d'opposition qui peut donner l'illusion qu'il apporte au moins une vengeance, si ce n'est pas des solutions, mais c'est au moins une revanche prise sur le pouvoir qui est plus assimilé à des couches proches de l'Occident. Alors, dans ces conditions-là, comment poser la question de la laïcité? Bon, si tu... En gros, hein, cette question est posée par un certain nombre de partis politiques. Mais il y a une grosse différence dans les argumentations. Il y a ceux qui estiment, ceux qui définissent la laïcité à l'occidental. Donc en estimant que la foi est affaire personnelle et que donc il ne doit pas y avoir de mélange entre le religieux et le politique. C'est une argumentation qui ne tient pas une seconde quand on sait ce qu'est l'islam, parce que c'est une religion justement qui n'est pas que spirituelle, enfin qui est très temporelle et qui intègre les questions du temps, de l'époque et des hommes. Par contre, il y a une autre argumentation qui consiste à dire, entre différentes interprétations de l'islam, quelle garantie avons-nous que les droits des êtres puissent être protégés? Et ça, on le voit au niveau maghrébin, justement, entre le code de la famille tunisien, entre le statut personnel marocain et le code de la famille de chez nous, ou entre la situation des Égyptiennes ou des Syriennes. Tous ces codes de la famille ont comme point commun qu'ils sont inspirés en partie, en grande partie, de la charia islamique, et en même temps, ils sont assez différents les uns des autres. Il y a, en Tunisie, on a supprimé la polygamie. Bon, au nom d'une certaine lecture du Coran. Et pourtant, on la maintiendra en Algérie au nom d'une autre lecture. Il y a suffisamment de pratiques différentes au niveau des pays arabes et musulmans qui font que ça joue comme un slogan et c'est pas suffisant comme définition. Alors, est-ce qu'on va être pour un islam qui coupe la main à tous les voleurs alors que le vol peut être une... On peut y être poussé par les conditions. Est-ce qu'on va attendre que les conditions idéales d'une société égalitaire soient réalisées pour enfin couper la main aux voleurs? Enfin, est-ce qu'on va être pour l'islam qui enferme les femmes ou l'islam qui considère que les femmes sont égales aux hommes devant Dieu et que de toute façon il y en a toujours eu dans l'histoire et qu'il y a eu des femmes qui ont commandé des guerres et des femmes qui ont dirigé des guerres et des femmes qui ont donné des prêches et des femmes qui osaient prendre la parole en public. Et puis, quel islam? À ce moment-là, la seule solution, c'est de dire, plutôt que de poser la question de cette façon-là, eh bien, séparons les sphères, partons de la réalité et puis essayons de voir ce qui va dans le sens du bien-être des êtres et ce qui ne va pas. C'est la seule chose qui peut qui peut unir. Et bon, autrement dit, ça exige de réclamer des partis qui se réclament de l'intégrisme aujourd'hui. Ça exige qu'ils présentent un programme politique et non un programme idéologique simplement religieux. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas si j'ai répondu, mais c'est un débat très très complexe. C'est un débat de l'heure en Algérie, hein. C'est pas réglé. Pas du tout. Alors, par rapport à la contraception-avortement, il y a un problème incontournable en Algérie, c'est celui de la démographie. On a une démographie galopante, on a un taux de natalité, je crois, qui est le troisième du monde, ou quelque
Les
chose comme
Français
ça.
envient.
Oui, certainement. Mais, donc, si tu veux, il y a eu une politique de. Comment on appelle ça? Oui, de planification. Et les moyens de contraception sont distribués dans des institutions de la santé qui dépendent de l'hôpital, qui sont des PMI. Je ne sais pas si vous avez des choses qui correspondent à ça. Oui, disons que c'est des centres qui proposent des conseils pour les mères, mais qui proposent en même temps des conseils pour la contraception, des machins comme ça. Mais l'avortement n'est permis que quand la santé, enfin que la vie des femmes est mise en qu'elle est réellement en danger, et pour un statut, enfin, quand on est femme mariée, c'est-à-dire qu'il est, hein, c'est-à-dire qu'il est. Et je ne crois pas qu'à aucun moment de l'histoire des luttes de femmes en Algérie, il y ait eu la prise en charge d'une telle revendication. Donc du droit à l'avortement ou du droit à, si tu veux, enfin, à contrôler son corps, enfin, des slogans tels qu'a pu les connaître le féminisme européen. Ça n'existe pas et pourtant, à côté de ça, il y a un problème réel des enfants abandonnés. Abandonnés par des filles mères qui n'ont pas d'autre solution qu'eux. Et c'est des enfants qui sont, comment dire, intégrés dans des institutions qu'on peut tout à fait comparer à des asiles d'aliénés. C'est-à-dire que c'est un tel dénuement. Que bon, la plupart sont autistes, enfin, c'est des conditions assez dures. Et les filles mères elles-mêmes, qui essaient de s'en sortir au départ en abandonnant l'enfant et pour se refaire une autre vie, quand elles n'y arrivent pas, bon, soit c'est la prostitution, soit elles reviennent pour être hébergées un moment dans ce type de centre. Mais de nouveau avec une prise en charge totalement inexistante. Et là aussi, on leur fait côtoyer donc des malades mentaux, parce que il y a souvent un quartier réservé, enfin, dans les asiles d'aliénés réservés aux filles mères. Bon, c'est un problème important, mais qui fonctionne comme un tabou. C'est vraiment un tabou. On n'en est pas là. Oui, je répondrai après. Je ne connais pas la situation au Maroc, hein, mais c'est des enfants qui n'ont pas droit à un nom. En réalité, quand ils sont en âge de scolarisation, on leur donne deux prénoms. Mais ils n'ont pas d'extrait de naissance, ils n'ont aucun. Ah oui, non, ça t'en fais pas. Du point de vue pénal, ils sont égaux à tous les autres Algériens. Et d'un point de vue civique, en tout cas, quand c'est des garçons, ils ont la majorité. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à leur majorité, ils sont tout simplement exclus de ces centres. Ils doivent se débrouiller. Alors, pour les garçons, c'est encore vivable, mais des filles qui ne savent rien donc de leurs origines, qui sont donc qui, enfin, qui n'ont pas le minimum enfin, décent pour être élevées, enfin, dans un minimum de dignité, ces femmes sont, ces filles, ces jeunes filles de 18 ans sont mises à la porte et elles doivent se débrouiller. Autrement dit, bon, pas d'autre solution que la prostitution. Donc c'est le cercle vicieux. Il y a un film qui a été fait par un certain Kébir, qui est qui fait pas partie de la famille du cinéma, mais qui a produit un film là-dessus et qui a été interdit en Algérie, qui est toujours interdit en Algérie et qui décrit un peu cette situation, la situation des filles mères comme celle des enfants. Je pensais à autre chose en parlant, puis j'ai oublié, je m'en rappellerai.
Ils ont de
Je sais plus.
l'instruction. Ils peuvent aller à l'école.
Ils peuvent aller à l'école, oui.
Est-ce qu'ils ne peuvent pas être reconnus par la mère, par exemple? Parce que ce qui existe au Maroc, les enfants, ils peuvent être reconnus par la mère, genre avoir le nom de la mère et de ce pays.
Ils ne peuvent pas être reconnus par la mère, ils ne peuvent pas être adoptés, puisque l'adoption n'existe pas. Enfin, le droit d'adoption n'est pas reconnu selon la charia. Et non. Enfin, je ne sais pas, mais on a. Bon, là, à un certain moment, on avait organisé enfin, des séances de témoignages de ces filles. Et elles racontaient des choses absolument horribles qu'on a du mal à imaginer. Alors elles expliquaient, elles racontaient par exemple comment on les mariait de force dans ce type d'institution. Et bon, c'est une espèce de vente aux enchères. C'est vraiment comme on vendait les esclaves autrefois. C'est-à-dire que il y a des hommes qui se présentent dans ces fameux pseudo-orphelinats. Et qui disent qu'ils ont besoin d'une femme, mais ils viennent là parce qu'il n'y a pas de dot exigée. Et on fait entrer les filles les unes après les autres. Et puis, quand toute la série est épuisée, il dit, bon, moi, c'est celle-là ou c'est l'autre. Et souvent, le mariage ne dure que quelques mois. Et puis. Et ce qu'elles vivent la manière la plus terrible, c'est qu'elles sont obligées à ce cinéma-là, elles n'ont pas le droit de refuser de venir à ce défilé, et en plus elles sont obligées de se grimer pour venir à ce défilé, c'est-à-dire qu'on va les barbouiller de rouge, de noir, de machin. Absolument. Oui. Ah oui, j'avais peut-être. Bon, alors je vais vous dire une chose. D'après une enquête qui a été faite, les filles mères ne sont pas des femmes qui ont fait l'amour par plaisir. Il s'agit souvent de femmes violées. Et vous avez bien raison de dire quels sont les moyens de se protéger. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et dans une société où on sépare systématiquement les hommes et les femmes, dans une société où on éduque femmes et hommes séparément, eh bien, on construit des fantasmes et on construit une société où on est, enfin, basée sur des frustrations. Après, on ne peut plus s'étonner qu'il y ait des agressions et qu'il y ait des viols, puisque de toute façon, c'est les femmes qui en écopent. Alors, c'est pas si grave que ça. On pourra toujours dire c'est de leur faute, mais ça, c'est des argumentations que vous connaissez. Mais c'est compliqué.
Je propose peut-être, monsieur, que Shafia termine. Justement, je proposerais qu'elle termine et puis qu'ensuite on reprenne les
Est-ce que vous
questions
n'avez
pour
pas
qu'elle puisse
précisé, par
terminer.
exemple, que si on coupe la main, c'est lorsqu'on est 3 fois récidiviste. Et c'est que vraiment, on n'a pas besoin de voler. Par contre, l'islam dit que si vraiment on a faim et qu'on vole, vous avez le droit de le faire 3 fois. Et même si vous avez le droit, on vous les coupe par un chirurgien connaissant. Donc, on ne peut pas faire comme ça.
Bien. D'accord. Alors, vous
apprécierez la
savez.
délicatesse.
Tout à fait. Non, le problème, c'est que ce que vous dites là, je veux dire, je veux bien que ce soit une lecture, mais je peux vous citer des discours que j'ai entendus de mes oreilles qui ne mettaient aucune condition à une législation de ce type, qui disait la corruption en Algérie, il y en a marre, Il faut y aller par la matraque. Et s'il faut couper la main à la majorité des Algériens, faisons-le. Mais il y en a marre, arrêtons le cirque. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, il y aura votre interprétation, il y a celle de l'autre, et celle de l'autre, et celle de l'autre, et on n'en aura pas fini. Alors, il vaut mieux poser le problème de la corruption, chercher ensemble qu'est-ce qui produit cette corruption. Après, on pourra mettre en place les mécanismes qu'il faut pour ne pas produire les mécanismes qui... Bon, je crois que c'est quand même mieux. Mais c'est une des raisons, ce que vous venez de dire, et l'illustration parfaite des débats que nous écoutons quasiment quotidiennement. Mais les gens ne pensent pas pareil. Tout en ayant la même source, ils ont des interprétations différentes.
Alors, il y avait une question tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont demandé la parole. Je propose cette fois que Shafia termine. Tu termines sur... si tu es d'accord, et ensuite on reprend une série de questions.
Si vous êtes d'accord. Écoute ces questions-là.
Oui, mais il y en a 5 autres.
Parce qu'il y a toujours la sienne. Je ne l'ai pas oubliée. Je réponds d'abord. Oui. Alors, le rapport entre le mouvement de femmes et le mouvement démocratique. Bon, l'explosion du mouvement associatif, par exemple, s'est faite dans la foulée de l'explosion d'octobre. Il y a eu pour la première fois en Algérie des associations à travers tout le territoire national, chose qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Il y a eu, au-delà du mouvement associatif, il y a eu des collectifs, il y a eu des femmes qui se sont battues dans leur secteur de travail, il y a eu des médecins qui ont commencé un travail de recherche très précis sur l'aliénation, par exemple, et qui travaillent actuellement sur une hypothèse extrêmement intéressante, la schizophrénie. Elles estiment que dans un pays comme l'Algérie, la maladie la plus répandue, mais aussi la plus logique, c'est la schizophrénie. Entre un pays qui prétend l'égalité dans certains textes et qui écrase au quotidien, il y a de quoi être coupé en deux. Et elle travaille sur cette hypothèse-là. Il y a des sociologues, il y a, je crois, des tas de choses qui participent au mouvement des femmes. Mais en même temps, les revendications démocratiques des femmes, qui sont, elles, très spécifiques, ont participé à alimenter un débat démocratique plus général. Par exemple... Il n'y a pas que la question des femmes, en fait, qui a ressurgi en 88. Il y a la question des minorités, donc autrement dit, la question berbère. Et il y a eu une espèce de va-et-vient entre des manifestations de... d'Algériens pour la reconnaissance de la langue berbère et des manifestations de femmes qui se conjuguaient souvent parce que ils devaient faire face aux mêmes textes, aux mêmes interdits. Par exemple, quand les femmes se sont battues à la rentrée 89 contre quelque chose qu'on voulait leur imposer, qu'on appelle la retraite proportionnelle, qui devrait être un choix, mais qui là été imposé systématiquement aux femmes, puisqu'on prétendait que les femmes volant du travail aux hommes, il fallait qu'elles libèrent des postes et que ce serait le meilleur moyen de créer des postes d'emploi. Eh bien, à ce moment-là, la lutte des femmes s'est conjuguée à une lutte syndicale propre aux enseignants et qui ensuite a drainé tout un mouvement de parents, d'associations de parents d'élèves sur des revendications démocratiques par rapport à l'école, par exemple. Actuellement, quand les femmes se battent contre la cherté de la vie, parce que c'est à elles de gérer leur quotidien, eh bien c'est une lutte qui s'articule très bien avec celle de populations plus larges, donc défavorisées ou en situation de dégradation dans les conditions de vie. Bon, donc c'est pas un mouvement qui fonctionne, j'allais dire, de manière isolée. Non, il y a des tas de moments où il y a des conjonctions entre certaines campagnes des femmes et des campagnes menées par ailleurs, de type syndical ou démocratique. Bon, quand les femmes luttent contre les pratiques discriminatoires, elles se retrouvent souvent soutenues ou en fait allant de, enfin, travaillant avec des associations ou des partis qui appuient ce type de revendications ou qui militent pour les mêmes revendications. Donc c'est extrêmement lié. Voilà, mais il est très difficile pour le mouvement femmes et pour le mouvement démocratique de façon générale aujourd'hui en Algérie de rompre rapidement avec des réflexes qui se sont constitués après bon, 26 ans de dictature, de monolithisme, de, je veux dire, c'est pas parce qu'on a décidé de rompre qu'on rompt automatiquement. C'est pas vrai. Il y a une phase de transition où c'est difficile, où il y a des moments où on se bat contre soi-même. Mais actuellement, le mouvement de femmes, par exemple, se bat contre tous les mécanismes d'exclusion, de sectarisme, des choses comme ça, qui ressurgissent malgré nous, parce que on a été éduqués dans le système de l'unicité absolue sur tous les plans. Donc il y a effectivement des choses qui se passent. Est-ce que par rapport à ça, la faillite des systèmes à l'Est joue un rôle ou pas? En Algérie, c'est pas, enfin, c'est vraiment pas le problème, vraiment pas. Les gens sont tellement pris par leur vie quotidienne, c'est-à-dire ils sont sûrs que les pays européens ne sont pas un modèle parce qu'il y a l'émigration, parce qu'il y a des émigrés qui témoignent de la vie qu'ils mènent dans l'émigration et donc de la situation des pays capitalistes. Alors ça ne peut pas jouer comme modèle. Et en même temps, les pays socialistes sont assimilés à la période socialiste, entre guillemets, que nous-mêmes nous avons vécue en Algérie et qui ne peut pas non plus représenter de modèle. Mais ceci dit, quelle implication exacte ça a sur le mouvement des femmes, personnellement, j'en vois pas. Je ne vois pas de rapport direct et explicite, hein, par rapport à. C'est plutôt un mouvement qui est à la recherche de lui-même. Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que quand on parle d'intégrisme, on parle souvent de l'intégrisme au masculin et on oublie de parler de l'intégrisme des femmes. Bon, là, dans le film, vous voyez les réactions des femmes contre un certain nombre d'agressions et qui n'étaient pas dues à l'exagération, qui étaient réelles. Cette femme de Ouargla dont le gamin a été brûlé, c'est pas une invention. Une militante à Annaba dont on a brûlé le logement et les documents se rapportant à la question des femmes, c'est pas une invention. Et la femme de Rumchi qui a été brûlée par son frère parce qu'elle refusait de quitter son travail, c'est pas une invention, c'est réel. Mais il y a eu aussi, et surtout dans les cités universitaires, des agressions de femmes contre des femmes. Bon, une des premières manifestations de ce type, nous en avons eu la primeur à Constantine, justement, où il a été décidé, pendant le mois de Ramadan, donc pendant le mois de Carême, que les filles n'auraient plus le droit de sortir de la cité universitaire 1 heure avant la rupture du jeûne. Ça a été décidé par une espèce de comité de la cité en question. Et pour mettre en pratique cette décision-là qu'ils avaient annoncée par affichage, elles se sont retrouvées, je sais pas, peut-être à 150 le premier soir et à 300 le troisième soir, armées de gourdins et de barres de fer, bloquant la porte et empêchant les autres de sortir. Bon, il y a eu des affrontements physiques, il y a eu des femmes blessées qu'on n'a pas pu soigner tout de suite. Enfin, ça a été extrêmement dur. Et, mais c'était des femmes. C'était pas des hommes qui étaient à la porte et qui réclamaient. Non, c'était des femmes qui se battaient pour l'enfermement des femmes. Donc, ça, c'est un problème, je veux dire, au-delà des modèles, comment des femmes peuvent-elles en arriver à revendiquer, comme nous l'avons vu souvent, à revendiquer la polygamie, alors qu'au niveau populaire, aucune femme mariée ne peut admettre la polygamie. Dites-lui, dhara, et c'est l'horreur. C'est pas possible, c'est inacceptable pour n'importe quelle femme algérienne. Il se trouve que les intégristes femmes réclament la polygamie. On en de quoi? C'est assez incroyable. C'est elles qui réclament un statut de reproductrice. Je veux dire, elles se définissent comme ça. Je n'exagère rien. Il y a des textes. Je n'invente rien. Il y a des textes écrits où elles disent notre rôle dans la communauté idéale de l'islam, c'est de faire des enfants. Nous devons produire des enfants pour le djihad. C'est elles qui le disent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aliénation, parce que je ne trouve pas d'autres mots, c'est pas possible. Je veux dire, la seule explication que je peux trouver, c'est que quand elles s'impliquent dans le militantisme à l'intégriste, ce ne sont plus des femmes. C'est pas possible. Ce sont des esclaves de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles s'appellent elles-mêmes. C'est plus des femmes. Donc, elles ne se définissent plus par rapport à ce qu'elles sont, par rapport à ce qu'elles vivent, par rapport à ce qu'elles veulent vivre. Elles vont taire toutes leurs aspirations et ne s'en remettre qu'à un modèle idéal, enfin mythique, qui. Est-ce que c'est une façon de se défendre contre une société qui de toute façon les exclut? Je ne sais pas. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de. On se fait souvent attaquer, enfin accuser d'avoir des réponses rapides. C'est pas vrai. Je veux dire, il y a des tas de choses qui posent des questions, qui sont interrogatives pour nous, qui sont. Enfin, j'ai certainement été trop longue, je m'excuse.
Il y avait 4 personnes qui avaient demandé la parole, Madame Rose, Monsieur, oui, Monsieur Agnésé et Sakina. Alors, il y a 2 autres questions ici.
J'ai une question plutôt théorique pour revenir aux deux premières questions que j'ai formulées. On a abordé deux concepts, pour moi c'est des concepts clés. Bon, moi je parle en tant qu'occidental, donc je connais qu'une vision des choses. Le concept de modernité et le concept de laïcité. Alors, pour moi, les deux concepts sont en étroite implication. J'estime que peut-être vous avez donné une interprétation un peu fausse de ce que la modernité dans la mesure. Peut-être vous avez parlé plus de la modernisation que pas de la modernité. La modernisation, pour moi, c'est l'atteinte d'un système rationnel, un système économique qui va. L'exemple, c'est le Koweït, par exemple, c'est un système qui est très modernisé, mais n'est pas moderne. Parce que dans le processus philosophique de modernité, il y a ces valeurs. Donc la question est celle de savoir si est-ce qu'on peut faire abstraction. Vous avez cité deux perspectives pour pouvoir la Chine en Algérie. La première, c'est celle occidentale qui est réglée. La deuxième, c'est une série d'interprétations différentes du texte religieux, j'imagine, pour comprendre laquelle répondrait le mieux aux besoins de la société. est-ce que la deuxième hypothèse, donc le deuxième type de l'acceptation de la laïcité n'est pas le même qui est exprimé par le premier? Enfin, est-ce que ce n'est pas une autre chose pour répéter sous d'autres mots le même principe de la laïcité occidentale qui n'est rien d'autre que celle de considérer enfin, l'autonomie de l'individu de la part de tout principe transcendantal et donc définir l'espace privé de l'individu?
Une autre question, monsieur? Oui. Monsieur,
tout en respectant le cadre dans lequel j'agissais, je me permets de poser quelques questions. Je veux savoir au juste la pertinence de vos revendications féminines, puisque la femme toujours revendique sa situation. Aussi, pourquoi se référer à l'élection du 12 juin? S'agit-il d'une coordination féminine?